Radio Prague, les informations. Bonjour, la social-démocratie a sommé ces deux députés qui toléreront la coalition gouvernementale de rendre leur carte de membre du parti. Par ailleurs, la coalition a adopté la déclaration de programme qu'elle entend soumettre au vote des députés. Enfin, le trafic à l'aéroport de Prague a été interrompu suite à une menace anonyme d'attentat à la bombe. Le Parti social-démocrate a sommé deux de ses députés, Miloš Melčak et Michal Pohanka, qu'il soupçonne de s'être laissé corrompre, de rendre leur carte de membre après que ceux-ci aient fait savoir mardi qu'ils toléreraient la coalition gouvernementale dirigée par Mirek Topolánek lors du vote de confiance à la Chambre des députés ce vendredi. De son côté, le Premier ministre et leader du Parti civique démocrate, Mirek Topolánek, a qualifié la décision des deux députés sociaux-démocrates de courageuse. Une décision qui, selon lui, améliore la culture politique du pays. Plus de détails sur la situation actuelle dans nos faits-événements. Politique toujours, le cabinet composé de membres du Parti civique démocrate, des chrétiens démocrates et des Verts a adopté ce mercredi la déclaration de programme avec laquelle il entend demander la confiance des députés. En accord avec les députés sociaux-démocrates Miloš Melčak et Michal Pohanka, le gouvernement s'engage entre autres à ce que la réforme fiscale profite à toutes les catégories de la population qui perçoivent un revenu ou encore à préparer un nouveau projet de loi garantissant l'existence d'hôpitaux à but non lucratif. Le Premier ministre Mirek Topolánek a rappelé à cette occasion que l'existence de son cabinet dépendait de sa faculté à faire adopter les réformes promises. Le trafic à l'aéroport de Prague-Ruzyně a été interrompu mercredi en fin d'après-midi suite à une menace anonyme d'attentat à la bombe. Un auteur inconnu a annoncé la présence d'explosifs sur le site internet d'information IDNES qui a ensuite alerté les services de l'aéroport du danger. La police procède actuellement à des recherches sur les lieux. En tennis, trois joueuses tchèques et Radek Štěpánek se sont qualifiées pour le troisième tour de l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Chez les femmes, Nicole Vaidišová, tête de série numéro 10, a facilement disposé en deux manches de la vénézuélienne Milagros Sequeira. Chez les hommes, Radek Štěpánek, tête de série numéro 20, est lui difficilement venu à bout en 5-7 de son compatriote Lukáš Dlouhý. En 16e de finale, il sera opposé à l'Espagnol David Ferrer. Un mot de météo pour conclure. Le ciel reste couvert sur l'ensemble du territoire jeudi, jour de la fête des Vladislav selon le calendrier tchèque. De fortes rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 110 km/h accompagnées d'averses sont attendues dans la soirée. Les températures restent largement supérieures aux normales saisonnières et varient entre 8 et 12 degrés pour les maximales. Quant au soleil, il se lève à 7h53 et se couche à 16h30. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski
pour le début de ce magazine, avec au centre de l'actualité tchèque, en ce milieu de semaine, le coup de théâtre sur la scène politique avec la décision de deux députés sociaux-démocrates qui permettrait au gouvernement de centre-droite d'obtenir la confiance de la Chambre des députés. Ensuite, Alexis Rosenzweig vous présentera une campagne contre le racisme pas comme les autres. Les possibilités d'asile en République tchèque, c'est un thème choisi par Guillaume Narguet. Magdalena Hrozinková a recueilli les propos d'une photographe de guerre française à Prague. Et Flora Moscovici vous invite aux journées portes ouvertes de l'Académie des Arts. Moi-même et toute la rédaction vous souhaitent une agréable écoute. Tout le monde en parlait, mais personne n'y croyait vraiment. De quoi ? De la possibilité que le deuxième gouvernement, formé par le leader de la première formation politique de la droite tchèque, Mirek Topolánek, président du Parti civique démocrate en coalition avec les chrétiens démocrates et les Verts, obtienne la confiance de la Chambre des députés grâce à des députés de la gauche. C'est chose faite. Deux députés sociaux-démocrates ont annoncé officiellement, lors d'une conférence de presse, qu'ils s'absenteraient lors du vote de confiance de ce vendredi. Cela veut dire que la coalition gouvernementale disposera de 100 voix et de la tolérance de deux députés de la gauche, donc de la majorité. Pourquoi cette tolérance? Les deux députés, Miloš Melčak et Michal Pohanka, ont expliqué qu'ils avaient contraint le Premier ministre à des concessions dans son programme. Par exemple, pas de privatisation des hôpitaux, engagement que la réforme fiscale serait avantageuse pour tous les citoyens, que l'État soutiendrait les jeunes familles. Miloš Melčák exprime ce qu'il considère comme un grand succès.
Velmi si cením toho, že vláda nehodlá přerušit dialog s odbory.
Je suis très satisfait du fait que le gouvernement ne pense pas interrompre le dialogue avec les syndicats. Cela veut dire que les syndicats seront toujours présents lors de la discussion de projets de loi importants. Le gouvernement s'emploiera aussi à préserver la paix sociale dans le pays.
Jejich slovo a především vláda bude usilovat o to, aby byl v zemi zachován sociální smír.
La réaction du président de la social-démocratie, Jiří Paroubek, ne s'est pas fait attendre.
Považujeme tuto dohodu za ukázku politické korupce a nečestnosti.
Nous considérons cet accord comme un exemple de corruption politique et de déshonneur. Le député Pohanka m'a maintes fois dans le passé et récemment encore assuré que son cœur battait à gauche.
A naposled před krátkým časem ujišťoval, že mu srdce bije na levo.
Trahison pour la social-démocratie, mais bon sens pour le Premier ministre. D'après lui, l'accord avec les deux députés sociaux-démocrates est surtout basé sur le fait que la crise politique ne peut continuer indéfiniment. Il précise encore.
To neznamená, že by oba poslanci touto toleranci vyjadřovali toleranci po celé funkční období a
cela ne veut pas dire que ces deux députés exprimeraient leur tolérance pendant toute la période de gouvernement de ce cabinet, qu'ils voteraient pour toutes les lois.
A hlasovali pro všechny zákony.
Mais cela veut dire que même si grâce à deux sociaux-démocrates, le gouvernement de Mirek Topolánek obtient la confiance des députés, il n'aura pas la vie facile, car il ne disposera pas de la majorité à la Chambre des députés. On remarquera quand même que l'éventualité d'un gouvernement reposant sur les voix de déserteurs avait été refusée aussi bien par le président de la République que par l'actuel Premier ministre. Dans toute la capitale, on peut voir depuis cette semaine des affiches avec des interdictions bizarres restreignant la liberté de certaines catégories de la population, vraisemblablement choisies au hasard, comme celles des gens qui ont des taches de rousseur. Le musée juif de Prague est à l'origine de cette nouvelle campagne, dont le but est d'intéresser les jeunes tchèques à l'histoire récente, en leur rappelant le sort des juifs avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Plus d'explications avec Alexis Rosenzweig.
Les blonds sont interdits de cinéma. C'est ce qu'on peut lire sur une des affiches de cette nouvelle campagne, une campagne contre l'antisémitisme et toute forme de racisme, comme l'a expliqué Vladimir Hansel, directeur du Centre culturel du Musée juif de Prague, à nos collègues de la rédaction anglaise.
L'idée principale est d'éduquer les jeunes, de leur donner une information de base sur l'histoire de l'antisémitisme, en particulier sur ce qui s'est passé ici avant l'Holocauste. Ces affiches sont inspirées des mesures placardées sur les murs par les autorités nazies. De nombreux gouvernements et sociétés ont pris leurs propres mesures, imposé leurs propres restrictions envers les Juifs.
Le site internet du musée juif de Prague est inscrit en petits caractères au bas des affiches, dont l'une interdit par exemple aux gauchers de conduire et leur impose de rendre leur permis sous 14 jours. Léo Pavlat est le directeur du musée juif de Prague.
Nous aimerions rappeler à un large public qu'il existe à Prague un musée juif, avec un centre culturel disposé à parler de ce problème, et où sont organisées des conférences et des soirées culturelles sur le sujet. Cela peut aider à mieux comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire et servir d'avertissement pour le futur.
Et les organisateurs de cette nouvelle campagne souhaitent également impliquer des écoles de la capitale dans ce projet et le décliner dans d'autres villes du pays.
Selon les statistiques du Bureau de la politique d'asile et de migration du ministère de l'Intérieur, 3016 étrangers ont fait une demande d'asile en République tchèque en 2006, soit le chiffre le plus faible depuis 1998. Au total, en l'espace de 17 ans, depuis 1990 et la fin du régime communiste, près de 85 000 personnes ont entrepris une démarche similaire. Mais à peine plus de 3 000 d'entre elles, soit moins de 4%, ont obtenu une autorisation de séjour des autorités tchèques. Guillaume Narguet.
Plusieurs fois déjà, différentes organisations humanitaires non gouvernementales ont dénoncé le fait que dans les autres pays de l'Union européenne, la part des demandes acceptées était bien plus importante et se situait entre 10 et 15%. Les responsables de ces organisations estiment pourtant qu'en matière d'aide aux réfugiés, la République tchèque est plutôt redevable aux autres pays du monde. Ils rappellent ainsi que des milliers de ressortissants de l'ancienne Tchécoslovaquie ont fui par vagues les régimes nazis et communistes en 1938, 1948 et 1968. Depuis la révolution de 1989, les Tchèques ne sont plus contraints de quitter leur pays d'origine, qui est devenu lui-même un pays d'accueil. Les demandes les plus nombreuses ont ainsi été déposées par des Ukrainiens. Ces derniers sont près de 13 000 à avoir effectué la démarche, suivis par environ 9 300 Russes, 6 000 Roumains, 4 500 Moldaves, 4 500 Vietnamiens, 4 000 Indiens et un peu plus de 2 000 Irakiens. Quant aux voisins slovaques, ils ont été environ 4 000 à solliciter l'administration tchèque. Toutefois, comme le prouvent les chiffres pour l'année dernière, le nombre de demandeurs est à la baisse, une réalité qui a entraîné la fermeture de plusieurs camps de réfugiés dans le pays, dont trois en 2006. Actuellement, 7 centres de séjour et d'accueil restent toutefois encore en service, leur structure pouvant évoluer selon les besoins. La tendance actuelle n'est cependant pas propre à la République tchèque. Ainsi, l'Autriche a annoncé avoir enregistré une diminution de 40% des demandes d'asile en l'espace d'un an. Une évolution qui, selon les spécialistes de la question, serait due à la politique européenne commune, selon laquelle un seul des États membres de l'espace Schengen est désormais responsable du traitement d'une demande. Les réfugiés ne peuvent donc plus déposer de dossiers dans plusieurs pays simultanément, en espérant que leur démarche aboutisse dans au moins l'un d'entre eux.
La photographe de guerre française Sarah Caron travaille pour Le Monde, The New York Times et Newsweek, et bien d'autres magazines et journaux encore. Elle est venue récemment à Prague sur l'invitation de l'Institut français, accompagnée de Patrick Chauvel, l'un des reporters de guerre les plus reconnus dans le métier. Par ailleurs, Patrick Chauvel a suivi pendant un an Sarah Caron en Afghanistan, en Irak et ailleurs, avec sa caméra, pour témoigner de la manière dont travaille la nouvelle génération des photoreporters. Sarah Caron, photographe freelance, explique elle-même au micro de Magdalena Horzinkova.
Depuis quelques années avec le digital, la façon d'exercer la photographie pour un photojournaliste déjà est un petit peu différente d'il y a 10 ans. Donc moi quand je commence, c'est d'une façon et maintenant c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les agents sur le fil comme Reuters, AP, ont des très bons photographes locaux qui vont répondre immédiatement à des demandes. Et ces personnes-là vont tout de suite pouvoir diffuser extrêmement rapidement les événements. Donc pour le photographe indépendant comme moi, c'est une concurrence totale. Donc ça n'est plus intéressant d'essayer d'être sur le même terrain que ces personnes. C'est absurde, quelque part. Alors sur un dossier chaud qui intéresse le photographe particulièrement, mettons par exemple cette année j'ai passé du temps en Israël et Palestine, c'est intéressant de rester longtemps. Et à ce moment-là, les magazines avec qui vous travaillez, sachant que vous êtes sur place, vont peut-être vous demander à vous de faire une histoire parce que vous y êtes déjà. Mais il est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile qu'un photographe indépendant soit envoyé parce que ça coûte cher. Donc du coup, moi je travaille surtout des sujets magazines, c'est-à-dire développer, rester, approfondir, avoir un peu de recul, un peu de distance aussi avec l'événement, essayer de comprendre et d'analyser. Donc ça se rapprocherait plus à la limite de la littérature, si on pouvait faire un parallèle avec l'écriture. C'est pas du news et de l'actu chaude, c'est une photographie qui a aussi une recherche artistique, émotionnelle, de compréhension, d'analyse de situation, etc. J'ai commencé à photographier en 1994 en Amérique du Sud, notamment à Cuba, pendant les événements de ce qu'on appelait la période spéciale. C'était une période où le Castro avait décidé qu'il fallait que tous les Cubains se serrent la ceinture, puisque la chute du mur avait provoqué le fait que les Soviétiques n'allaient plus aider le pays. Donc à ce moment-là, l'état de l'économie cubaine est devenu dramatique et à partir de là, Castro a essayé de résister comme il pouvait en motivant le peuple à économiser surtout. Donc s'en est suivi une période terrible que lui a appelée la période spéciale et ça a éclaté en août 95 où là, les Cubains sont partis par centaines sur des petites embarcations construites avec un jean pour faire la voile, un morceau de bois pour faire l'embarcation. Et donc, moi, j'étais à Cuba à ce moment-là et j'ai commencé à faire la photo sur cet événement. Voilà, et ensuite, les photos ont été publiées et j'ai commencé à être photographe de cette façon.
Et n'oubliez pas, ce dimanche, Sarah Caron et Patrick Chauvel seront les invités de Culture sans frontières. À Umfrun, l'Académie d'art, d'architecture et de design de Prague, les portes ouvertes, appelées ici Clausura, car elles marquent la fin du semestre, approchent à grands pas. Avec Flora Moscovici, nous jetterons un coup d'œil sur la préparation de cet événement, ainsi que sur la façon dont il est vécu par les étudiants Erasmus de Umfrun.
En effet, Umfrun ouvrira ses portes au public pendant une semaine à partir du 24 janvier. Les étudiants sont donc actuellement en plein préparatif. Chacun doit finir ses projets coûte que coûte, quitte à y laisser son sommeil, car l'accrochage commence ce mercredi 17 janvier. Chaque atelier, peinture, sculpture, graphisme, typographie, illustration, animation, photographie, design, architecture, stylisme, textile, céramique et j'en passe, exposera les projets réalisés par ses étudiants durant le semestre. C'est donc l'occasion pour ces apprentis artistes de se faire connaître, pour l'école d'affirmer sa réputation et pour ceux qui veulent y rentrer, de voir d'un peu plus près ce qu'on y fait. On peut donc dire sans exagérer que c'est l'événement le plus important de l'année à Umfrun. Professeurs comme étudiants le préparent sans relâche. Finition des travaux accélérés, peaufinage, présentation, il n'y a pas de temps à perdre. Comment cette atmosphère d'excitation et de stress est donc vécue par les étudiants Erasmus qui sont à peine une petite trentaine dans cette grande école ? Dans certains ateliers, ils sont totalement mêlés aux étudiants tchèques et l'on exigera d'eux le même travail. Tandis que dans d'autres, ils resteront un peu à part, étant jugés plus comme des vacanciers de passage que comme de réels étudiants. Néanmoins, la plupart des étudiants Erasmus à Umfrun semblent prendre leur projet à cœur et se retrouvent ainsi dans la même excitation mêlée de stress que les étudiants tchèques. Le plus grand problème pour eux dans l'école reste bien sûr la langue, étant donné que tous les professeurs ne parlent pas anglais, mais il est toujours possible de trouver un tchèque sympathique pour traduire. À condition de mettre sa timidité de côté, il n'y a donc pas trop de problèmes pour les Erasmus de Umfrun qui cherchent à s'intégrer. En tout cas, le 24 janvier, tchèques et Erasmus seront exposés ensemble sur les murs de l'Académie d'art pragoise.
Nous avons eu le plaisir de vous présenter Faits et événements, et après l'époque contemporaine et l'actualité, nous vous proposons un petit voyage dans le passé, toujours sur les ondes de Radio Prague.
Bienvenue à l'écoute de ces chapitres de l'histoire, préparés aujourd'hui par David Allon et présentés par Jarka Gisublova. Il y a 38 ans, en janvier 1968, le printemps de Prague prenait un tour nouveau, menaçant de balayer le rôle dirigeant du parti communiste tchécoslovaque. Le résultat sera le remplacement d'un conservateur par un autre et la fin de nombreux espoirs. Le remplacement de Novotny par Husák illustre parfaitement les méthodes du régime, faites de trahison, d'opportunisme et de tactiques politiques. Immersion aujourd'hui dans les rouages du régime communiste. Président du pays depuis 1957, Antonín Novotný aura scellé sa carrière à la personnalité de Khrushchev. Il appliquait d'ailleurs les nombreux conseils que lui prodiguait le numéro un soviétique pour consolider son pouvoir. Tenir en échec ses concurrents au sein du parti, constituer des équipes formées de personnes réciproquement hostiles, acheter la loyauté de ses collègues par des avantages pécuniaires. Chaque mois, de petites enveloppes blanches rétribuent la fidélité des membres dirigeants du PCT. À partir de 1967, la contestation anti-Novotny prend une ampleur considérable, venant aussi bien du parti que de la population. Il faut souligner la position originale de Novotny prise au sein du parti entre le feu des réformistes libéraux qui lui reprochent son conservatisme et les durs du parti qui l'accusent de faiblesse face à la libéralisation de la société. Bercé par l'illusion de son inamovibilité, Novotny se défend maladroitement. C'est particulièrement vrai pour ses attaques contre les Rus' Peter Slovak, où il emploie un langage nationaliste. Ceci ne fera que dresser contre lui les membres slovaques du parti dans deux qui vont lui succéder, Dubček et Husák. Brezhnev, qui remplace Khrushchev à la tête du PCUS en 1964, soutient Novotny dans un premier temps avant de décider son remplacement. Parmi les raisons possibles du désaveu, il y a sans doute l'audace avec laquelle Novotny avait, seul parmi les dirigeants du bloc soviétique, critiqué le départ de Khrushchev. La conséquence en avait été le remplacement de l'ambassadeur soviétique à Prague. Bien sûr, Novotny s'était rapidement plié à la nouvelle ligne, se montrant bientôt un exécutant docile des volontés du Kremlin. Il donne même son accord à l'installation de bases de lance-missiles soviétiques à la frontière occidentale. Mais ce qui fut une maladresse de plus qui n'avait pas effacé la rancune de Brezhnev. Celui-ci se rend à Prague fin 1967. Deux jours après, Novotny réunit le présidium du comité central, pensant régler les litiges au sein du parti. Le nouveau cours se dessine et les nouveaux valets de l'Union soviétique l'accablent de critiques. Parmi eux figurent ses anciens alliés dans une logique intersecte au régime. Kolder ou encore Heinrich, qui était son plus proche collaborateur, sans compter ses anciens courtisans qui font désormais semblant de ne pas le connaître. Voilà pour les mousquetaires du Parti communiste tchécoslovaque. Les partisans du printemps de Prague, avec Dubček à leur tête, demandent également le départ de Novotny, au nom de la réforme libérale et de la révision incomplète des procès politiques des années 50. Parmi eux, le Slovaque Gustav Husák fait figure de véritable pourfendeur du pouvoir. Vieil ennemi de Novotny, il saisit enfin l'occasion de prendre sa revanche lors d'une réunion du comité central. Écoutons le témoignage de Karel Kaplan, historien acteur de premier plan du printemps.
Chaque mot qui sortait de sa bouche était lourd de haine condensée. Chaque phrase ressemblait à une lame de couteau pour tailler Novotny en pièces.
Beaucoup parmi les réformistes du parti s'inquiètent du réquisitoire de Husák, dont la dureté et le contenu évoquent plutôt les années 50 que celles du printemps. Ils n'ont pas tort. Passant pour un fervent partisan du printemps de Prague, Husák dispose dans les premiers mois de 1968 d'une conjoncture favorable. La population et les membres réformateurs du parti sont fatigués des tensions au sein du parti. S'il est très populaire, Dubček n'est pas un politicien aguerri et beaucoup pensent que son remplacement par Husák représente un moindre mal. On ne sait pas que Moscou a déjà choisi Husák pour incarner le nouveau cours. Certains membres du comité central se méfient, mais rappelons-le, Husák reste une figure du printemps de Prague aux yeux de beaucoup. Ainsi, Milan Hübl, porte-parole des intellectuels et acteurs de premier ordre du printemps de Prague. Hübl se prononce en faveur de la candidature de Husák, rappelant leur collaboration dans le mouvement d'opposition à Novotny. Dans les années 60, Hübl avait d'ailleurs favorisé la cause de Husák au sein des milieux intellectuels tchèques. Seul bémol, Hübl suggère à Husák plus de tolérance politique envers ses détracteurs. Quelques jours plus tard, le comité central décide une procédure judiciaire contre Hübl qui est condamné à 5 ans de prison. l'illusion de la continuité du printemps de Prague a vécu. Gustav Husák était passionné par le pouvoir et on peut se demander à quel point son engagement dans le printemps de Prague était sincère. Ses mobiles relevaient sans doute plus de considérations personnelles, revendications slovaques, que d'une recherche de libéralisation. Sa lutte contre Novotny pour la prise de pouvoir semble avoir été sa principale motivation. Plus troublant fut sans doute le retournement total de certains partisans du processus de démocratisation face aux nouveaux cours. Tchernik, Bilak, Kolder ou Svobodova auront fortement déçu les membres du parti qui croyaient encore, comme Karel Kaplan, Karel Kosik ou encore Josef Smrkovski.
Nous remercions tous nos amis d'avoir passé, nous l'espérons, d'agréables moments à l'écoute et les invitons à nous retrouver sur les ondes de Radio Prague.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 8 hours UTC on 7345 and 9860 kHz and at 17, 18 and 21 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 11:30 hours on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 10 hours UTC on 21745 kHz, at 17 hours on 15710 kHz, and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 17 hours on 15710 kHz and at 22:30 hours on 9435 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 11:30 hours UTC on 17545 kHz and at 4:30 hours on 9890 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 11:30 hours UTC on 17545 kHz. Those of you tuning in North America can hear us at 14 hours on 13580 kHz, at 22:30 and 23:30 hours on 5930 kHz, also at 23:30 hours on 7345 kHz, and at 1, 2 and 4 hours on 6200 and 7345 kHz. Listeners in